Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique.
Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Étincelle qui en fait ce soir, où je reçois Cécilia Duterre. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir à tous.
Alors maintenant Cécilia, tu es une aficionado, c'est une habituée de l'émission sur Radio Anguin.
Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de plaisir à venir faire cette émission avec vous.
C'est toujours un plaisir de t'entendre sur les ondes de la radio. Alors on va parler de ton tout nouveau roman. On va parler de, à l'occasion de la rentrée littéraire qui foisonne d'ouvrages plus intéressants les uns que les autres. On va parler de ton tout nouveau roman qui, je pense, se distingue largement du lot. Avec ce titre accrocheur qui est Zaina, bâche à poche. Alors, bâche à poche, ça veut dire quoi exactement?
Alors, bâche à poche, c'est une coutume afghane actuelle, hein, encore actuelle. Dans les familles où il n'y a pas de mari, où il n'y a pas de frère, comme les femmes ne peuvent pas sortir de chez elles sans être accompagnées d'un mâle, d'un élément mâle, souvent on prend la cadette de la famille, on la déguise en garçon, on la rebaptise garçon et on lui fait vivre en fait une vie pour l'extérieur de garçon, c'est-à-dire qu'elle va à l'école, qu'elle peut se déplacer librement, ce que les femmes ne peuvent pas faire. Et donc, elle sert de chaperon, je mets des guillemets, mais de chaperon pour la famille.
Malgré son jeune âge.
Malgré son jeune âge. Du moment qu'elle est garçon, elle peut accompagner les femmes et les femmes peuvent donc sortir. Et donc, cette coutume est très fréquente encore en Afghanistan, surtout peut-être pas trop à Kaboul, mais surtout dans les provinces un peu éloignées.
Oui, parce que Kaboul, c'est quand même, j'allais dire, un petit peu occidentalisé ou en tout cas civilisé.
Bon, en tout cas, les femmes ont un statut un tout petit peu plus progressiste à Kaboul, mais ce n'est pas le cas du tout dans les provinces plus reculées. Et donc, cette coutume ancestrale est encore à l'œuvre. Et donc, ça s'appelle les bâches à poche. On les appelle, ces petites filles déguisées en garçon, ça s'appelle des bâches à poche. D'ailleurs, c'est exactement littéralement ce que ça veut dire, une fille déguisée en garçon. Mais
personne ne le sait.
Non, enfin, disons que pour l'extérieur, elle est rebaptisée garçon et elle est habillée comme un garçon. Et disons que si les gens le savent, en tout cas, ils font semblant de ne pas savoir. Et bon, je pense que ça passe aussi inaperçu pour d'autres. Hein. Mais de toute façon, c'est quelque chose de tacite. Hein. Comme on en a besoin dans ces familles-là, ben, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et du coup, cette petite fille déguisée en garçon va avoir une vie de garçon. C'est-à-dire qu'elle va effectivement aller à l'école avec les garçons.
Se bagarrer aussi.
Se bagarrer avec les garçons éventuellement. Jouer au cerf-volant, parce que c'est vrai que les cerfs-volants, notamment à Kaboul, c'est un jeu très courant. Voilà, avoir une vie donc relativement libre, hein, puisque les garçons sont beaucoup plus libres que les filles.
Et elle accompagne sa maman qui...
Alors elle accompagne sa maman, ses sœurs notamment. Alors moi, là je reviens à mon roman. Ça permet à sa famille de subsister et ça permet donc effectivement à la mère de famille de notamment pouvoir aller vendre de la nourriture au marché pour... permettre de faire subsister la famille. Mais la coutume des bâches à poche, d'une façon générale, là je reviens à la vraie vie, lors de l'adolescence, les bâches à poche doivent recouvrer leur identité d'origine puisque les formes de ces jeunes filles, qui restent quand même des jeunes filles, puisque les formes de ces jeunes filles les trahissent et donc elles sont obligées de effectivement recouvrer donc leur identité d'origine. Mais moi j'ai imaginé dans mon roman une petite bâche à poche rebelle qui précisément n'accepte pas de redevenir femme dans un pays où c'est très difficile, où la condition féminine est très difficile, et donc elle s'enfuit et elle va aller se réfugier dans une ONG à Kaboul, parce que l'histoire se situe à Kaboul, qui effectivement va la protéger quelques mois et par des biais un peu, là je passe un peu vite, elle va venir avec cette ONG en France parler en fait de la condition féminine afghane et tenter pour cette ONG de récolter des fonds. Voilà, donc elle va arriver en Occident.
C'est le départ d'une grande histoire.
C'est le départ de cette histoire-là, en tout cas, de son histoire. Et part de quelqu'un qui effectivement vient en fait pour une semaine ou deux simplement raconter à la presse ce qu'elle a vécu avec d'autres femmes afghanes qui ont vécu des choses plus aussi très difficiles et qui sont là donc effectivement pour sensibiliser la presse française à la cause afghane, pour récolter des fonds pour cette association. Et puis, elle va continuer à fuguer et rester en France alors que l'ONG et les autres Afghanes vont rentrer. Et elle va rester. Et donc là, c'est le départ d'une nouvelle vie pour elle.
Alors c'est très intéressant parce que c'est un regard qui est porté sur la condition féminine aussi bien dans le monde afghan, mais simplement, je pense que ce n'est pas simplement réservé au monde afghan.
Non, l'idée c'était de... Alors bon, d'abord, l'idée c'est de faire un roman. Donc effectivement, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses à partir du moment où elle est en France. Et puis ensuite, elle ira aux États-Unis. Et puis, on va en reparler. Mais l'idée, effectivement, c'était de ce point de départ des Bachapoches, de parler autour aussi de tout ce que c'est l'identité d'être une femme. Est-ce que ça vient du fait d'être éduquée comme une femme ou quelque chose de beaucoup plus intrinsèque? Et puis aussi, ensuite, de peut-être en filigrane d'un roman qui est quand même un roman aussi une vraie aventure intérieure et extérieure d'ailleurs qu'elle va vivre, de parler de qu'est-ce que c'est être une femme à notre époque, être une femme alors... La condition féminine orientale, elle décide d'en sortir, cette femme-là. Et là, on la comprend, parce que la condition de la femme afghane, c'est quand même pas très drôle. Mais aussi de voir le pendant, en fait, en miroir, en contrepoint, en ce qui va se passer donc, en Occident. Elle va, par mille, peut-être...
Événements. Que nous ne diront pas ici, nous ne les dévoilerons pas.
Mais comme par ailleurs elle est très belle, elle va devenir mannequin. Alors là, je passe vraiment très vite, hein, parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain, bien entendu. Oui. Mais elle va donc en étant quelque part un porte-étendard en fait de cette femme moderne, affranchie, magnifiquement belle dans son cas. En même temps, peut-être voir aussi les limites d'une certaine liberté. Je mets encore des guillemets, puisqu'effectivement, on ne peut pas comparer le statut de la femme orientale à la femme occidentale, mais je dirais qu'en allant très loin, finalement, dans cette liberté que lui permet maintenant son statut de femme occidentale, elle va voir aussi qu'il y a certaines limites.
Alors, dans les limites, en fait, on a une journaliste française qui est un petit peu son modèle, qui est un peu l'initiée, qui la met en avant. Et elle se retrouve à se comparer un petit peu involontairement avec son mode de vie d'Afghane et ce mode de vie qu'elle ne comprend pas au tout début.
Oui, alors parce que quand elle arrive en France, effectivement, pendant plusieurs mois, elle erre dans les rues parisiennes. C'est quand elle fugue de cette ONG, elle se retrouve à la rue. Et donc là, il y a quand même une descente aux enfers avant que, effectivement, sa route croise celle d'un photographe un peu spécial, mais qui va repérer, qui lui sait en fait que, parce que quand elle vient à Paris, elle rencontre des journalistes et dans ce cadre-là, elle a croisé ce photographe. Donc lui sait que sous ces dehors de très masculin, et se cache quand même une femme assez belle et il décide de la lancer en fait dans le milieu de la mode. Donc voilà, donc c'est le départ de cette nouvelle vie.
Alors on va pas dévoiler plus parce que c'est le livre mérite d'être découvert, lu et que vous puissiez vous l'approprier, vous auditeurs ou internautes qui nous réécoutez. Simplement, Cécilia, j'aimerais revenir sur une constance qui a l'air de se dégager de vos écrits, notamment avec le premier ouvrage. Écrit donc qui a remporté un prix.
Le prix Où le monde de la Fondation de France, qui est un prix littéraire. Vous parlez de L'âme de fond, je pense.
L'âme de fond. Et L'âme de fond, c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi une recherche d'identité.
Oui, L'âme de fond, c'était une femme qui était prise dans le tsunami de 2004 par hasard et qui en réchappait miraculeusement et qui décidait de ne pas revenir, laissant derrière elle en France une famille, un mari, une fille et qui décidait de partir aussi dans une seconde vie. Donc quelque part, il y a un parallèle effectivement entre ces deux histoires.
C'est toujours une seconde vie.
Une seconde vie, mais pour partir dans le premier cas, effectivement, c'est vraiment une quête d'identité. C'est-à-dire que c'est une femme qui se cherche dans sa vie, mais qui est tout à fait sûre d'être femme et qui va partir, je dirais, là, pour le coup, vraiment, c'est une aventure intérieure qu'elle va vivre. Et dans ce roman-là, c'est une seconde vie, mais c'est surtout de la survie. C'est-à-dire que, quelque part, cette héroïne, elle est beaucoup plus jeune aussi. Parce que dans le roman, quand elle décide de fuir cette condition afghane, elle a 16 ans. Hein, donc, elle arrive vraiment, c'est encore une gamine.
Oui.
Et donc, elle va construire finalement sa vie. Là, on parle de seconde vie, mais c'est tout simplement sa vie qu'elle prend en main. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'avenir possible pour elle en Afghanistan.
En fait, c'est un petit peu comme la tour de Pise, cette héroïne, parce que finalement, la tour de Pise, elle est sur des fondations qui sont penchées. Mmh. Alors, le résultat, c'est une très jolie tour, mais elle est penchée parce que les fondations ne sont pas droites.
Oui, alors,
là, c'est pareil.
Oui, c'est pareil. Elle s'est construite effectivement d'abord sur un mensonge identitaire très important qui l'a elle-même ébranlée. Hein. C'est pas facile non plus parce que on l'a fait passer pour un garçon, mais elle-même, pendant l'enfance, au départ, se pense garçon, puisqu'on quand on la déguise en garçon, elle est toute jeune. Donc elle s'identifie complètement au personnage masculin qu'on lui fait endosser. Et puis, bon, après, elle grandit, elle comprend, et elle comprend surtout qu'elle n'a de cesse que de fuir, en fait, cette condition. Et elle arrive en France, et par, encore une fois, des biais très détournés, elle se retrouve quand même mannequin, ce qui est quand même le grand écart le plus absolu avec la femme voilée qu'elle aurait été si elle était restée dans cette condition, si elle avait réintégré sa vie de femme comme c'était prévu dans son destin.
Donc, au lieu d'être cachée derrière un niqab...
Hein, oui,
donc,
oui.
Avec des yeux grillagés.
Oui. Hein.
Elle est finalement valorisée, maquillée, avec des rouges à lèvres.
Oui.
Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a cette crise d'identité où de garçon, elle passe à femme. Mmh. Et de femme afghane, elle passe à femme occidentale.
Oui, et parce que quelque part, on lui demande d'être ça, puisqu'on lui dit finalement ton salut, puisque tu es belle, tu seras mannequin. Et
elle n'a pas son mot à dire, en fait.
Ben, quelque part, pas tellement dans mon histoire.
Hein, oui.
Pas tellement, oui, mais elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix, que c'est la seule issue pour l'instant qui s'offre à elle. Et c'est une belle issue, parce qu'elle va pouvoir gagner sa vie. Donc elle accepte.
C'est sa sécurité.
C'est sa sécurité, mais en même temps, elle est encore quelque part entre objets, entre guillemets, entre les mains de gens qui veulent en faire maintenant l'emblème, le porte-étendard d'une femme affranchie, occidentale, moderne, progressiste.
Alors
qu'elle n'est pas.
Au fond d'elle, elle est encore un petit garçon.
Elle est encore même pas vraiment garçon, elle est dans un flou identitaire complet puisqu'elle a à cette époque-là, là, elle a 18 ans et donc elle est complètement perdue. Mais en même temps, on lui tend cette main, elle la saisit, sachant qu'il n'y en aura pas d'autre et que c'est une chance inouïe qui lui arrive. Donc elle la saisit.
Mais est-ce une chance?
Alors ça, c'est autre chose. Après, tout le roman justement porte sur cette réflexion. Est-ce que c'est une chance? Sans doute, dans son cas, sur le plan factuel, sur le plan conjoncturel, c'est une chance, bien sûr.
Alors, quand elle reprend contact plus tard avec une de ses sœurs, avec ses deux sœurs, en fait, hein, mm-hmm. on vous passe les péripéties, il y a deux réactions.
Oui, elle a deux sœurs. Alors, elle reprend contact beaucoup plus tard parce qu'elle devient mannequin et puis elle grimpe en comme ça les échelons et même deux mannequins, elle devient mannequin international et elle se retrouve aux États-Unis. Et là, effectivement, elle gagne extrêmement bien sa vie. Par ailleurs, son histoire commence à être connue, donc c'est très vendeur aussi, cette petite bâche à poche qui s'est sauvée, qui devient mannequin international, presque top modèle, et qui, effectivement, les gens se chargent de communiquer sur cette histoire, et donc elle commence à être connue, c'est presque une forme de gloire pour elle. Et puis le monde occidental est si content d'avoir accueilli cette femme qui a voulu qui était prise de liberté, donc l'Occident sauveur. Tout ça, je mets des guillemets, hein, évidemment, oui. Mais c'est exactement comme ça que c'est perçu, en fait, et c'est comme ça que surtout c'est vendu. C'est vendu par, ben, quelque part, ses managers, quelque part, son agence de mannequins, tous les gens autour d'elle qui vont faire de l'argent aussi sur son image au sens large, pas que son image plastique, mais aussi cette histoire. Ce parcours personnel qui est quand même très typique et très particulier et qui va rajouter de l'aura sur une plastique impeccable.
Ça me rappelle, ça me fait rappeler un parallèle, alors vous me dites si je me trompe ou pas, avec une véritable mannequin qui n'est plus de son monde, hélas, mais qui était une des égéries d'Yves Saint Laurent.
Ah oui, je ne suis pas au courant.
Qui venait aussi comme ça de pays d'Afrique. Et qui s'est retrouvée dans la lutte contre l'excision, justement.
D'accord.
Et qui, malheureusement, est décédée il y a quelques années. Et qui, justement, venait d'Afrique pour s'intégrer et qui était arrivée, finalement, un peu comme Zaina, comment on dit ?
Zaina, oui.
Zaina. Mmh. Mais sans vivre en vivant un grave préjudice, finalement, à la base. Et en arrivant quand même au sommet, c'est-à-dire que malgré la frustration de l'identité féminine qui lui avait été carrément retirée médicalement, finalement, elle est devenue au summum de la beauté, de la plastique et reconnue. Exactement dans le même esprit, elle ne vous a pas inspirée ?
Ben non, parce que je n'étais pas au courant de cette histoire, mais après, voilà.
Comme j'ai quoi, plus son nom.
Comme quoi la fiction peut rejoindre... Mais je pense que c'est quelque chose d'assez réaliste hein, que j'ai imaginé. Certes, c'est une pure fiction. En revanche, la coutume des bâches à poche, c'est loin d'être une fiction. Et puis,
voilà. J'en reviens aux deux sœurs, pardon.
Oui, alors les deux sœurs, effectivement, elles sont restées en Afghanistan. Elles vivent des vies de femmes afghanes. Les deux ont des enfants, donc elles ont été mariées. Zaina vivait dans une famille pachtoune, donc très traditionnelle. Donc ces deux sœurs ont été mariées très jeunes. Elles ont eu des enfants très jeunes, comme c'est le sort qui lui aurait été réservé.
Quatre enfants pour l'une d'entre elles.
Oui, et donc quand elle se retourne sur son passé et qu'elle reprend contact après bien des années avec ses sœurs, elle découvre qu'en fait il y a deux réactions. Il y en a une finalement qui est très dans la religion, qui est musulmane, croyante, absolument pratiquante, et finalement qui a complètement intégré ce sort et qui ne le remet même plus en cause.
Qui en a fait sa vie.
Et donc Zaina devient le symbole exactement du démon, en fait. De
l'Occident à combattre.
D'autant plus qu'elle habite aux États-Unis, le pays Oni, hein, qui les a occupés dans l'esprit de cette sœur. Et puis l'autre sœur qui est peut-être beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de la renonciation, en fait, du renoncement.
Mais qui envie quand même un petit peu.
Mais qui secrètement envie cette vie qu'elle vit, qu'elle a réussi.
Le courage qu'elle a eu.
Voilà. Donc... voilà, elle renoue avec sa famille, mais ça reste très compliqué.
Donc, une crise identitaire qu'elle arrive finalement à surmonter après bien des prises de conscience.
Qu'elle va surmonter, je ne sais pas. Je pense qu'elle la surmontera à la fin du livre, mais après beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties. Mais je pense qu'elle va d'abord aller au bout de cette liberté qu'on lui tend. Et en pensant en fait se trouver, elle va sans doute peut-être se perdre hein, beaucoup parce qu'elle va être un bon petit cheval en fait. Elle va vraiment correspondre à cette femme qu'on lui demande d'être, donc d'abord physiquement et puis aussi sur le plan plus, je vais dire, amoureux. Elle va endosser aussi l'air de l'époque, donc elle va vivre la libération sexuelle qu'elle n'aurait jamais évidemment vécue dans son pays. Donc, mais elle va aussi, et de par le fait aussi qu'elle vit dans un milieu, le mannequinat, etc., elle va aller très loin finalement dans cette quête amoureuse, multiplier les partenaires, pensant être dans une forme de toute-puissance, celle qu'on lui vend en fait. Mmh. Et peut-être qu'elle va se rendre compte progressivement que plus elle va vers cette, je dirais, pseudo-liberté, parce que finalement, ce n'est pas elle qui décide, ce n'est jamais elle qui décide, mais c'est soit l'air du temps, soit ce qu'on lui demande, ce qu'on lui impose, ce qu'on lui demande d'être et d'afficher. Finalement, elle va aller de moins en moins vers elle-même, et il lui faudra des années, et là, peut-être, je ne vais pas non plus raconter tout le livre, mais des années et beaucoup d'événements plus ou moins heureux, hein, et une rencontre aussi très importante dans sa vie, pour prendre conscience que rien ne peut être imposé par les autres et que peut-être c'est par une forme de véritable liberté intérieure qu'elle gagnera cette fameuse liberté qu'elle cherchait.
Donc, quoi qu'on en dise, la liberté est toujours intérieure.
Bien sûr, c'est ce que je pense profondément.
Que ce soit dans un camp ou dans un autre, il y a à chaque fois des contraintes très importantes à partir du moment où on vit son statut de femme pleinement.
Oui, alors quand même, je ne mets pas du tout sur un pied d'égalité le statut de la femme afghane et le statut de la femme occidentale. Entendons-nous bien, il est très clair pour moi d'être que le statut de la femme occidentale est quand même tout à fait enviable et nous sommes infiniment plus libres, bien entendu, que les femmes afghanes. C'était pas mon propos de mettre sur le même plan, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une forme de la liberté qu'on nous tend en Occident, la liberté féminine qu'on nous tend en Occident, qui est réelle sur bien des plans, comporte aussi un certain nombre d'enfermements, notamment sociaux, des diktats esthétiques dans lesquels la pauvre, on va la faire rentrer de façon comme dans un paradigme, puisqu'elle sera, en étant mannequin, elle est vraiment la quintessence de ça.
Un paradigme étant un ensemble de règles.
Oui. Et donc voilà, elle va toucher du doigt, elle va aussi aller voir derrière le voile, je mets mille guillemets, le voile occidental, c'est-à-dire que peut-être qu'on va tellement lui demander de correspondre à cette fameuse femme qui, à mon avis, finalement, n'existe pas tant que ça, mais cette femme qu'on nous tend en modèle, qui doit être une super amante, une super femme grande, belle, mince, qui correspond à ces critères précis de beauté standardisée. On va lui demander d'être cette femme extrêmement libérée sur le plan amoureux, etc., etc. Et elle va très logiquement, puisqu'elle n'a pas beaucoup de recul, elle arrive très, très jeune, etc.
Elle va illustrer
ça. Et elle va aller au bout de cette liberté avec mille réserves sur le mot liberté pour voir que finalement, peut-être que cette liberté l'enferme aussi de façon tout à fait différente, mais dans un modèle qui n'est pas le sien, tout simplement.
Alors Cécilia, quand j'ai parlé tout à l'heure de votre premier roman, L'âme de fond, vous en avez écrit bien sûr beaucoup d'autres, mais vous êtes aussi l'auteur d'un essai qui s'appelle Est-il Soum ?
Oui.
Quelque part, on a toujours des portraits, des beaux portraits de femmes fières, indépendantes et aussi profondément spirituelles. Alors je crois savoir que vous vous revendiquez justement de cette spiritualité.
Oui, je suis croyante, mais justement dans tous mes livres, j'aime beaucoup qu'il y ait un fil, mais alors ténu, hein, parce que moi je ne prêche pas, mais simplement mes héroïnes ou mes héros, parce que Savannah Dream c'est un autre de mes romans et le héros principal c'était un homme. Mais toujours, il y a en filigrane une réflexion, je dirais spirituelle, mais vraiment voilà, en filigrane. Et là, en l'occurrence, mon héroïne Zeyna, elle a un dieu qu'elle apporte au cœur qui va l'aider depuis le départ. C'est aussi celui qui la pousse à fuir, c'est celui qui la pousse à chercher cette liberté qu'elle a en elle. Mais ce n'est pas le dieu des talibans, évidemment, ce n'est pas le dieu enfermant de cette, je dirais, intégrisme qu'elle quitte. Et c'est au contraire un dieu qui la prend par la main pour l'emmener vers elle-même. Donc c'est tout le cheminement du roman. Elle va aller, finalement, elle va se trouver. Mais elle mettra beaucoup de temps parce que finalement, à vouloir correspondre soit en Afghanistan, soit au départ en Occident, à des modèles qu'on lui impose, dans un sens ou dans un autre, dans ce grand écart-là, elle ne se trouve pas. Et elle ne se trouvera que quand elle comprendra qu'il n'y a qu'elle qui peut comprendre que cette immense liberté qu'elle cherche, elle la trouvera aussi en habitant sa solitude, en acceptant qui elle est vraiment.
Et en se reliant,
bien sûr, à justement cette transcendance qu'elle a au cœur, ce Dieu, mais qui n'est pas nommé, qui n'est pas religieux au sens où c'est ni un Dieu musulman.
On ne parle
ni
pas
un
du tout de religion.
Non, je ne parle pas de religion.
On parle simplement de fêtes, d'us et de coutumes. Alors justement, à ce propos, par rapport aux us et coutumes, vous parlez à un moment donné des Bacha Bazi.
Oui, alors ça, c'est la coutume, je dirais, le pendant contraire des Bacha Poche.
Oui.
Parce que dans ce pays, en Afghanistan, où justement, il y a finalement quelque part une guerre des sexes très importante, ou en tout cas, il y a une très grande peur
parce qu'en fait, les hommes n'ont pas le droit finalement trop d'approcher les femmes.
De côtoyer les femmes, sauf quand ils sont mariés, et inversement, encore plus les femmes vis-à-vis des hommes. Finalement, dans ces pays-là, on se rend compte que ces deux coutumes, Bacha Poche, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Bacha Bazi, alors cette coutume des Bacha Bazi, ce sont des petits garçons pris pour leur beauté, pour la finesse de leurs traits. Ils sont généralement des enfants qui sont de familles pauvres et les parents les vendent, il n'y a pas d'autre mot, à des proxénètes qui eux-mêmes les monnaient. Qui les vendent pour des services sexuels à des hommes d'affaires, à des hommes qui sont riches.
On hurlerait au crime à notre époque en Occident.
Oui, alors en plus, la coutume des Bacha Bazi, c'est très particulier parce que, effectivement, il y a des faveurs sexuelles, mais avant tout ça, ces garçons dansent pendant des heures devant des assemblées d'hommes. Donc, dans des lieux clos, des maisons, ils dansent. Et puis, à la fin du show, si j'ose dire, il se passe des choses assez sordides. Et donc, finalement, on se rend compte que dans un pays où femmes et hommes sont dans cette peur, en fait, incroyable, et cette diabolisation, en fait, des sexes, pousse d'un côté pour les Bacha Poche, petites filles déguisées en garçons, d'un autre côté garçons monnayés contre des faveurs sexuelles pour les hommes. C'est très étrange parce que finalement, il y a une confusion des genres incroyable dans ces pratiques, je veux dire. Et serait quand même plus simple, se dit-on, de vivre de façon quand même plus neutre entre hommes et femmes. Et peut-être que ça me pousserait moins à avoir ces pratiques complètement sordides.
Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui ?
Ben, ça existe toujours dans les deux cas. Alors encore une fois, sans doute aussi à Kaboul, mais
moins.
Bon, là, moi, mon histoire se passe dans les faubourgs de Kaboul. Hein, donc on n'est plus non plus dans le cœur de la capitale. Mais c'est assez fréquent encore.
Alors maintenant, parce que dans votre roman, les petites filles ne sont pas scolarisées.
Alors certaines, si. Il y a une petite scolarisation des filles en Afghanistan. Et en l'occurrence, dans mon roman, justement, l'ONG dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle se réfugie ma petite Bacha Poche, Zena, lorsqu'elle a 16 ans, a pour mission, justement, d'aider les femmes à s'émanciper, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, à développer quand même une forme de condition plus agréable, on va dire. Et donc, effectivement, la scolarisation des petites filles dans ce cadre-là est un des axes majeurs de l'action de cette ONG.
C'est ce qu'avait l'air de dire Tina Kiefer.
Ah, c'est possible. Je pense qu'elle serait intéressée par la thématique de ce roman. Je l'ai lui envoyé d'ailleurs.
Ça peut être une bonne idée puisqu'elle se bat beaucoup pour la scolarisation des petites filles à l'école. Et puis il y avait ce partenariat avec certaines enseignes où on achetait des roses en plus et que l'argent de ces roses arrivait justement pour aller financer les études des enfants.
Bah, c'est une magnifique cause. Hein. C'est quand même très important parce que tout passe par là. Hein. La petite fille qui ne va pas à l'école, c'est sûr qu'elle va rester toute sa vie à la maison. Si elle va à l'école, il y a quand même des chances de lui faire comprendre un certain nombre de choses. Il y a une éducation, etc. Ça, c'est clair. Et c'est donc pour ça que Zena, quand elle arrive en France, témoigne de sa condition, témoigne de son parcours pour récolter des fonds pour cette association.
Alors, à un moment donné, dans votre ouvrage, vous parlez donc de récolter des fonds, mais est-ce que ces fonds, alors c'est moi qui fais mes petites recherches sur Internet, il y a quand même pas mal de fonds qui sont donnés. Est-ce qu'ils sont judicieusement employés ou est-ce que ça renforce le clientélisme et la corruption ? C'est la question qu'on peut se poser.
Ça, moi, je ne sais pas dans la vraie vie exactement où vont les fonds. En tout cas, dans mon roman, les choses se passent correctement et l'association est une belle association que mon héroïne va d'ailleurs beaucoup plus tard retrouver lorsqu'elle est au fait de sa gloire. Et elle va comprendre que peut-être il faut revenir à ce fondamental-là, c'est-à-dire aider les autres pour peut-être mieux se connaître et s'accepter aussi soi-même. Il faut s'ouvrir à l'autre. Et peut-être que son parcours en fait, de mannequin l'aura enfermé beaucoup plus dans son ego et donc enfermé véritablement. Et que pour trouver cette liberté, elle va devoir retourner vers l'ONG qui l'avait aidée au départ, aider peut-être les femmes afghanes qu'elle a laissées au pays, beaucoup plus largement que ses deux sœurs, et s'ouvrir à l'autre en général.
C'est une manière de se réparer ?
C'est une manière de se réparer, et je crois que d'une façon, là, au-delà du roman, je crois que l'ouverture à autrui, c'est aussi l'ouverture à Dieu, c'est aussi l'ouverture au spirituel. On ne peut pas enfermé sur son ego, on ne peut rien faire. On ne peut pas non plus se trouver, parce que finalement, on tourne en rond autour de son nombril. C'est ce qu'elle comprend. Elle mettra 300 pages à le comprendre, mais finalement, grâce aux rencontres et grâce aux 1000 épreuves qu'elle va traverser et magnifiquement aussi s'en sortir à chaque fois, elle comprendra que la seule issue, et finalement, c'est celle qu'elle aurait peut-être dû prendre dès le départ, mais ça ne le savait pas, ça aurait été de surfer sur justement ces autres qui ont besoin d'elle.
Alors il paraît que maintenant il y a à peu près 44% de filles qui sont scolarisées et 68% petits garçons, mais donc il y a quand même une amélioration des conditions.
Il y a une amélioration, bien sûr. Ben, bien sûr, et puis le gouvernement d'Amin Karzai, bon, il pas fait énormément, mais il y a quand même des choses qui ont évolué, notamment une ministre des droits de la femme. Après, est-ce qu'elle a tout, elle a les mains libres pour faire beaucoup de choses dans ce pays? Je ne suis pas sûre. Il y a encore énormément de choses à faire.
Elle existe déjà.
Elle existe, ouais. Et les femmes peuvent voter. C'est nouveau. C'est assez nouveau.
Et puis, il y a plus d'hôpitaux.
Oui, il y a plus de tout. C'est clair que de toute façon, mais de toute façon, la marche des choses voudra que l'Afghanistan, un jour ou l'autre, s'ouvre de plus en plus. C'est pas le propos de mon roman, mais c'est
plutôt la quête d'identité et la condition de la femme.
Oui, c'est vraiment, le roman est construit autour de ce personnage féminin qu'on prend donc de l'âge de 16, enfin même de l'âge de 4 ans, puisque c'est très tôt qu'on la transforme, jusqu'à 30-35 ans, on va dire, et jusqu'à l'âge aussi, peut-être éventuellement, de devenir une mère. Alors on verra si les choses arrivent, mais c'est aussi un des éléments importants dans la vie d'une femme. La maternité.
Cécilia, je crois que vous êtes maman.
Oui.
Et vous avez une grande fille.
Oui.
Qui pourrait avoir l'âge de Zéna.
Oui, qui a l'âge de Zéna et qui m'a très gentiment, je sais pourquoi vous faites allusion à Marine, donc je la salue, ma gentille fille aînée, avec qui j'ai beaucoup parlé en fait de la thématique de ce roman avant de l'écrire, mm-hmm. qui était très enthousiaste, qui trouvait que c'était une histoire extra de son point de vue, et au fil de l'écriture et surtout à la fin, je lui donnais à lire et relire attentivement, et elle a fait elle a 16 ans et demi, donc c'est quelque chose qui lui a parlé, bien que ça puisse parler, puisque justement l'héroïne va de 4 ans jusqu'à 40 ans, ça peut parler à tout le monde, mais là précisément sur le début en tout cas du livre, ça lui avait particulièrement parlé. Et elle m'a relu très gentiment l'ouvrage. Elle m'a fait beaucoup de remarques que j'ai trouvées extrêmement sensées.
Qui correspondaient à celle d'une jeune fille, l'état d'esprit d'une jeune fille.
Oui, et puis même sur l'avancement du roman, certaines choses. Elle m'a fait même quelques critiques que j'ai prises tout à fait en compte parce que c'était intelligent. Et donc, j'ai fait des petites coupes ou des rattrapages voilà, en fonction de ce qu'elle m'a dit. Et j'ai trouvé qu'elle avait un très joli regard de jeune femme, déjà, en fait. Ça m'a même émue.
Ah, c'est beau. Et Cécilia, votre parcours, je reviens un petit peu à vous, oui. À votre parcours. Quand vous avez abordé un essai sur Est-il Ilsoum, c'était vraiment aussi un très, très beau portrait de femme.
Oui, alors là, de femmes existantes, hein, ce n'était pas une fiction, là pour le coup c'est une biographie, c'est d'une femme qui a existé. Donc on rappelle, Etil Soum, c'est une jeune femme juive néerlandaise qui a tenu un journal pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation en Hollande, l'occupation donc des nazis. Et c'est un journal lumineux malgré la période extrêmement sombre. Lumineux pourquoi ? Parce qu'elle part d'un très grand chaos personnel. À la base, elle est très dépressive. Donc, on pourrait imaginer qu'on part dans quelque chose de très sombre. Et non, elle arrive justement, on en parlait finalement il y a 2 minutes, à sortir de cet ego, à ne pas s'enfermer dans cette dépression, en s'ouvrant effectivement d'abord aussi aux autres, notamment à d'autres juifs qu'elle a beaucoup aidés, et puis à découvrir Dieu au cœur même de la Shoah. Donc c'est vraiment un parcours très singulier, très étonnant, et qui m'a énormément touchée. Hein. J'ai écrit 2 livres sur Etil Soum.
Et dont un qui était un ouvrage collectif.
Oui, que j'ai dirigé, mm-hmm. C'est plus spécifiquement l'aspect confessionnel qui m'avait intéressée. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un parcours avant d'être un parcours spirituel, c'est aussi un parcours de femme éprise aussi de liberté et de spiritualité.
Finalement, c'est ce qui a l'air de correspondre à l'ensemble de vos héroïnes.
Oui, quelque part, c'est vrai qu'il y a une ligne. Effectivement, il y a une ligne dans ce que j'écris. Alors, on la voit pas toujours parce que j'ai
tellement bien amené que on voit pas le discours de fond.
J'ai coutume de dire que quand j'écris des essais, c'est vrai que ce sont des essais sérieux, là pour le coup, et puis on n'est pas du tout dans la fiction, donc il n'y a pas lieu d'inventer. Il faut expliquer, si c'est une biographie, il faut dire les choses, on ne peut pas inventer les faits. Ou des ouvrages plus purement spirituels. Mais c'est vrai aussi que dans mes romans, cette réflexion, je dirais, théorique, que j'ai conceptualisé dans les cadres des essais plus pointus, je vais dire. Je le mets de façon plus fictionnelle dans mes romans, mais je parle de la même chose, puisque c'est uniquement ça qui m'intéresse. En fait, j'écris pour parler de tout ce dont on a parlé là. Mais c'est vrai que dans Bacha Poche, on peut retrouver des traits d'Etil Soum. Dans Etil Soum, on pourrait retrouver d'autres ouvrages et... Oui, c'est une. Moi aussi, ma réflexion évolue au fil des livres.
Alors, justement, on parlait tout à l'heure hors antenne de Doris Lessing.
Oui, très grande auteure, magnifique.
Voilà, auteure américaine, mmh. qui a beaucoup fait pour la libération de la femme.
Oui, beaucoup, et qui a écrit des ouvrages même extrêmement singuliers et même assez gonflés pour l'époque.
Oui, puisque c'était dans les années 45-50.
Bah oui, justement. Donc, auteur cher à mon cœur.
Et donc, par rapport à... Enfin, comment est arrivé justement cet auteur dans votre vie Question piège.
Non, pas du tout. Mais je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé Doris Lessing, comme j'ai beaucoup aimé, par exemple, Colette, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est aussi dans cette ligne assez féministe, en fait. Comme j'ai aimé aussi Régine Desforges, qui n'est peut-être pas, moi je ne la mettrais pas sur le même plan que Colette quand même, mais ce sont des auteurs qui ont osé en fait être femmes, voilà, jusqu'au bout des ongles dans leur écriture.
C'est leur point commun en fait, oui, hein, c'est oui. La féminité. Ça pourrait être aussi finalement des facettes de vous-même.
Bien sûr, hein, de toute façon, moi j'essaie dans l'écriture d'être sincère en fait, donc c'est vrai que je mets dans mes livres beaucoup de ce que je suis, même si mes personnages vont souvent beaucoup plus loin.
Vous avez une vie rangée
Oh ben oui, je suis sûre que j'ai pas la même vie que mes personnages, mais oui, par rapport, elle est très rangée ma vie, mais en même temps je mets beaucoup de moi dans mes personnages. Bien sûr, on peut pas écrire 300 pages sur une héroïne si on n'est pas un petit peu cette héroïne au moment où on l'écrit.
Alors, est-ce que c'est finalement comme un acteur qui pourrait jouer un rôle, qui s'investit de ce rôle-là et qui vit pleinement ? Est-ce que c'est une manière pour vous de vivre par procuration, une vie où vous n'avez pas envie de mettre les pieds, mais finalement vous observez et vous allez jusqu'au bout de cette hypothèse ? Est-ce que c'est simplement pour rêver ? Qu'est-ce qui vous anime quand vous écrivez ?
Ben, je ne sais pas, en fait, d'où me viennent ces histoires. Je crois que quelque part, elle m'arrive. Hein. Moi, je ne me mets jamais à écrire tant que l'histoire n'est pas complètement tissée dans ma tête.
Alors vous la portez intérieurement.
Oui, alors parfois, c'est long. Hein. Justement, je me mets vraiment à écrire purement chapitre par chapitre. Tant que ce n'est pas tout à fait clair dans ma tête, je ne peux pas le faire. Après, il y a plusieurs écoles. Hein, et tous les auteurs ne sont pas comme moi.
Et vous écrivez comment le matin, vous avez des post-it sur votre bureau. Vous faites comme Maxime Chatham, il a plein de post-it sur son bureau.
Bah, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, je n'ai que des post-it sur mon bureau. D'ailleurs, ça fait rire mes amis. Donc, c'est marrant que vous disiez ça, Angélique. Mais oui, plus sérieusement, j'écris tous les jours, en fait. Le matin, beaucoup. La pure écriture, c'est le matin. L'après-midi, souvent la relecture et de ce que j'ai écrit le matin. Et puis voilà, on avance, mais c'est pas non plus, c'est pas toujours facile. Moi, pour les romans, j'ai du mal. Hein. C'est pas une écriture si simple. Ce qui m'est plus simple, ce sont les essais.
Parce qu'il y a une grande fluidité dans votre écriture, c'est comme un rythme qui coule. Et chaque mot est un peu comme une musique, comme un son. C'est comme si vous écriviez à chaque fois une partition de musique. Parce que quand on écrit, finalement, on entend ça dans sa tête. Et c'est comme une sonorité.
Bah, c'est gentil de me le dire, en tout cas. Mais il y a un gros travail en fait, derrière. Ça ne sort pas comme ça du tout, hélas, j'aimerais. Et c'est vrai ce que vous dites de l'ordre de la mélodie. Je ne sais pas si c'est toujours mélodieux aux oreilles du lecteur, je le souhaite. Mais en tout cas, moi, quand il y a un couac, je le vois. Et par rapport à ma mélodie interne, je le sens. Et parfois, je travaille beaucoup, beaucoup pour récupérer la note. Et voilà. Mais c'est aussi quand même une des joies du travail d'écriture. Hein. Même si c'est âpre, ça correspond à quelque chose de très joyeux aussi, d'avoir à faire ce travail de ciselage, en fait.
Alors, le monde des livres ne vous est pas inconnu, puisque vous venez de la Bibliothèque nationale ?
Oui, j'ai travaillé dans une autre vie, j'étais juriste. Hein, mm-hmm. Donc, j'ai travaillé au CNRS d'abord et à la BNF ensuite. Donc, à la BNF, c'est vrai que j'étais dans le monde des livres et de l'édition parce que quelque part, je m'occupais des droits d'auteur pour notamment les négocier pour le grand programme de numérisation à l'époque qui portait donc parfois sur des livres sous droit. Donc, il fallait négocier avec les éditeurs pour pouvoir numériser leurs livres.
Alors, est-ce que ça vous a facilité pour après vous négocier vos propres contrats ?
Oh,
pas
non.
Du tout.
Non, parce que ça reste un milieu quand même assez concurrentiel. Hein. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de publier qui ne trouvent pas forcément d'éditeurs. Et donc, en tout cas, au début, hein, c'est beaucoup moins mon cas maintenant parce que ça fait 10 ans, mais tout au début, on n'a pas tellement de choix. Hein. On prend les contrats qu'on vous donne. Hein. On les négocie.
Est-ce que vous pensez que on a besoin d'un éditeur pour être accompagné dans une écriture de roman ? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit simplement à part entière ? Puisqu'on voit beaucoup de gens se lancent dans l'aventure, dans l'auto-édition. Est-ce que c'est important d'être accompagné ? Est-ce qu'on est accompagné quand on est édité ?
Ça dépend. Moi, j'ai beaucoup d'éditeurs, donc il y en a qui laissent très libre, hein, mais c'est bien aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Moi, j'aime bien pouvoir en discuter. Là, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui s'appelle Jean-Marc Bastière, hein, et qui d'ailleurs qui est un homme. C'est tout à son honneur d'avoir publié ce texte qui est quand même autour quand même vraiment de la condition féminine contemporaine. Mais on en a pas mal parlé, enfin voilà, plusieurs reprises.
Il a donné son avis masculin.
Oui, moi je lui ai donné un texte fini, hein, il était terminé, donc on n'en a pas parlé avant. Je lui ai donné le texte presque sans lui en parler. Enfin voilà, ben, visiblement il a beaucoup aimé. Après, il m'a fait quelques remarques que j'ai prises en compte, hein, qui étaient, je pense, très sensées aussi. Lui, son regard d'homme était très intéressant sur ce texte. Hein.
Sur les deux personnages masculins ?
Notamment, exactement, parce que c'est vrai qu'il m'a fait creuser un peu leur psychologie, rendu un peu plus subtil qu'il n'était au départ. Donc, merci à lui, parce que c'est vrai que ça manquait.
Donc, c'est un accompagnement, un éditeur.
Il m'a en tout cas fait des corrections qui n'étaient pas énormes, mais qui sont quand même des corrections qui m'ont aidé à faire aboutir ce projet pour que, en tout cas, moi, j'en sois satisfaite, que ça corresponde à ce que j'avais en tête. Et c'est en tout cas le cas. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est pas moi qui décide, c'est le lecteur. Mais moi, ce livre correspond à celui que je voulais faire.
Alors, maintenant, je suppose que vous avez d'autres projets qui sont en cours, parce qu'une fois qu'on a sorti un livre, c'est finalement un livre qu'on a mûri, qu'on a porté pendant un certain temps. On se sent un peu vide et j'imagine qu'on ne peut pas rester dans cet état quand on est écrivain.
En même temps, il faut, comme Zeina, apprendre, et ça m'est difficile, à habiter mon vide, justement, et peut-être pas se lancer tout le temps dans une course à l'écriture, parce que de peur de se brûler, en fait, tout simplement. Il y a un moment donné aussi, il faut respecter des temps de pause.
Et, par exemple, vous ne pouvez pas écrire deux livres en même temps.
Alors si, ça a été le cas, parce que j'avais aussi par ailleurs une commande d'un ouvrage spirituel, donc un essai, et ça m'était possible parce que justement c'était pas deux romans, c'est pas possible d'écrire deux romans, mais un essai, bon, on n'invente pas, on n'est pas dans l'imagination, on est vraiment dans quelque chose de très précis.
Alors est-ce que dans ces cas-là, quand vous écrivez un roman, ça fait appel à un imaginaire et ça prend une énorme partie de sa vie finalement, puisqu'on le porte tout le temps,
on en rêve,
hein. Ça m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs, comment ça se vit au sein de votre famille quand vous écrivez comme ça des romans aussi passionnés? Comment vit votre époux ces conditions-là? Est-ce que vous en discutez un petit peu avec lui?
Ah bah oui, ça c'est sûr, mais le pauvre. Oui, mon mari n'est pas dans le monde de la littérature, donc c'est pas mal parce que quand je lui en parle, il a un vrai regard finalement de lecteur en fait, de simple lecteur, mm-hmm. Et ce qui est très bien, c'est un regard pragmatique. Si les choses collent pas, il dira mais non, ça colle pas, on n'y croit pas. Et donc c'est très bien parce que moi j'ai pas forcément ce recul. Après, je pense que ça m'habite beaucoup.
Et un petit peu comme Johnny Depp dans sa famille.
Je ne sais pas comment on lui fait, mais
il était tout le temps son pirate, tous les jours.
Oui, voilà. Donc, j'apprends aussi à essayer de lâcher un peu prise de temps en temps, parce que c'est vrai que les autres ne vivent pas non plus au rythme de mes personnages, donc ils ont leur propre vie, ce qui est tout à fait normal. Voilà, heureusement, justement, d'avoir une famille, c'est bien aussi, d'avoir les deux pieds sur terre à côté. On ne peut pas rester dans l'imaginaire tout le temps, c'est pas bon, hein, ça ne serait pas bon.
Alors, quels sont les... il nous reste à peu près environ 10 minutes ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. C'est l'émission Étincelle, je vous le rappelle, sur IDFM 98. Nous allons approfondir un petit peu le principe de la rentrée littéraire. Alors, comment ça se passe pour vous, puisque vous avez toujours publié hors saison ?
Il n'y a pas de saison, en fait. Simplement, il y a deux rentrées littéraires. Il y en a une en septembre et une en janvier. Moi, j'ai plutôt publié le plus souvent autour de janvier, donc janvier, février, mars.
Est-ce que c'est plus sympathique comme accueil ?
Ah, je ne sais pas si c'est plus sympathique. En tout cas, je pense que c'est un petit peu moins dur en termes de promotion, parce que c'est vrai que la rentrée de septembre, c'est la plus prestigieuse et c'est la vitrine, en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a 600 romans qui sortent en même temps. Donc, effectivement, voilà.
Vous pensez que c'est un problème ?
Non, je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense tout simplement que il faut exister aussi parmi ces 600 romans.
Et quand un sujet comme ça ressort du lot et est adapté, j'allais dire, à l'actualité, puisque franchement, c'est vraiment très important, le principe de la féminité, du port du voile, on confond musulmans et intégristes, et ce qui est bien dommage, vous partez d'un principe d'us et coutume. Vous n'êtes pas dans le jugement à aucun moment. Vous êtes une observatrice bienveillante. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose... Un livre comme ça peut retenir plus l'attention?
J'espère. J'espère. C'était mon objectif. C'est-à-dire, c'est aussi de parler de l'époque. Hein. Les romans, finalement, sont aussi une petite trace, une empreinte d'une époque et d'un moment... X. Donc, vous avez raison. Là, ce roman-là, tout particulièrement, il est actuel. Il est actuel parce qu'on parle beaucoup de l'Afghanistan. Il est actuel parce qu'effectivement, cette coutume des bâches à poche tourne autour de l'identité. Or, c'est quand même avec toutes les lois sur le genre et toutes les discussions sur le genre, c'est quand même aussi une thématique importante du roman. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est être une femme au XXIe siècle, hein, et qu'est-ce que c'est qu'être une femme occidentale? Est-ce que nous, femmes occidentales, avons gagné, nous avons gagné beaucoup de choses sur beaucoup de terrains, mais ne nous enfermons-nous pas aussi nous-mêmes, d'ailleurs, dans une certaine image qu'on attend de nous, dans un certain statut, dans un certain rôle?
Et puis rien n'est acquis, puisqu'on recevait aussi sur cette antenne Fabie Perrier, qui est une chanteuse engagée, militante, qui se bat beaucoup pour que les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein puissent avoir accès au spectacle de manière gratuite. Et elle a fait une chanson qui s'appelle, qui lutte contre le manifeste, le manifeste anti-avortement, qu'à un moment donné, c'était remis en question. Donc, ces grands sujets-là où finalement les femmes se sont battues, rien n'est jamais acquis, parce qu'il peut toujours tomber une loi qui nous fasse repartir en arrière.
Alors, il y a ça, bien sûr, et puis il y a aussi des enfermements, je dirais, beaucoup plus insidieux, qui sont finalement liés à l'air du temps, où on nous demande peut-être d'être un peu trop, finalement, des femmes toutes puissantes. On a l'impression qu'on demande à l'être humain, d'ailleurs, en général, de tout conduire, tout savoir, d'être cette femme, par exemple, actuellement, d'être cette femme dont je parlais tout à l'heure, qui maîtrise magnifiquement sa vie, devient une super, doit être une super amante, une super maîtresse, une super maman, doit correspondre à quand même des standards de beauté très, très standardisés. Il y a un certain nombre, je pense, encore de dictates, y compris relayés parfois par les journaux féminins.
Pour vendre des produits cosmétiques.
Notamment.
Et pour vendre des vêtements.
Voilà. Je pense que chacune devrait, en tout cas, peut-être cultiver une forme d'intériorité, de liberté intérieure pour résister à un certain nombre de pressions sociales de tous ordres.
On en a de plus en plus, et j'irai sur le secteur des décroissants. C'est un petit peu curieux, parce que les décroissants, finalement, sont en train de se libérer. Alors, les décroissants, ce sont des personnes qui ne rentrent plus dans le système de consommation à tout prix et qui vont essayer de consommer le moins possible, d'avoir le moins de déchets possible, ça dépend des personnes, essayer d'avoir des vêtements, mais qui ne sont pas dans le mode « on change de vêtements, mais on les garde parce qu'ils sont en bon état ». Donc on sort des dictats de la mode, justement.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce type de personnes montrent qu'elles ont déjà acquis une certaine liberté intérieure ?
Sans doute. Après, il y a mille façons de résister au discours ambiant qui, parfois, est très bon, mais parfois ne l'est pas. Et je pense qu'on gagnerait à cultiver, en fait, à se connaître véritablement et à savoir ce dont on a besoin, ce vers quoi, pourquoi on court en fait. Si on court pour répondre à des injonctions en fait sociales, même insidieuses, mais qui ne correspondent pas à son moi profond, je pense qu'on se trompe et qu'on se perd, donc quelle que soit la course.
Et ça me fait penser à la chanson « J'aurais aimé être un artiste ».
Par exemple, oui.
Parce que là, il se trompe, il est chef d'entreprise, il aurait aimé être chanteur.
Oui, et il a fait une course peut-être pour répondre aux dictats de ses parents, par exemple, en l'occurrence, ou en tout cas parce que c'était beaucoup plus noble d'être chef d'entreprise. Mais voilà, à tous les niveaux, en fait, c'est vrai ce constat. Et
comment vous voyez maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'évolution de la condition de la femme ? Est-ce que comment vous la voyez évoluer dans les années qui viennent ? Est-ce que vous y avez réfléchi ?
Moi, je pense qu'elle évolue quand même pas mal. Je veux dire, son statut social évolue. Les lois en Occident, je veux dire, vont vers une forme d'égalité. Ça, c'est certain. Maintenant, il faudra qu'aussi la femme, par elle-même, se dégage d'un carcan. Mais là, je vous parle même du cerveau reptilien de la femme. Hein. Je veux dire, quelque part, il faut aussi qu'elle aille vers cette femme qu'elle voudrait être, mais qu'elle n'est pas encore. Qu'elle se libère aussi d'un certain nombre de poids qu'on continue à lui faire peser sur elle.
Et pour se faire accepter, elle les accepte.
Bah souvent, c'est le cas, oui, souvent. Sur le plan amoureux, je trouve beaucoup encore. Finalement, par exemple, cette course amoureuse, moi, de ma petite Zéna, elle va multiplier les partenaires pour répondre, pensant que, justement, elle est libérée, que c'est merveilleux de multiplier ses partenaires, de faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut. Elle est dans cette toute puissance de « je veux, donc je fais ». Or, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut ? Finalement, elle se rend compte que ça la rend très malheureuse, cette vie-là. Et que, dans le fond, ce qu'elle veut fondamentalement, c'est bien autre chose. Ce serait d'abord d'avoir, sur la fin, elle voudrait avoir un homme à ses côtés. Et puis, finalement, elle se rend compte aussi que, finalement, ce qu'elle veut, c'est savoir habiter cette solitude dans laquelle elle est, être sereine avec elle-même, être en paix. Tout simplement en paix avec elle-même. Et peut-être qu'après, sur le futur, elle pourra rencontrer l'autre, hein, l'autre partenaire masculin, par exemple, mais dans une vraie altérité, là, pour le coup, d'âme, et non plus dans cette toute-puissance extraordinaire dans laquelle elle a vécu, où on l'a fait vivre pendant tout le roman.
Alors, Cécilia, on va conclure sur cette émission, que vous allez pouvoir écouter d'ailleurs, soit vous redemandez l'émission à IDFM 98, hein, Radio Anguin, soit vous pourrez l'écouter sur votre site, qui est
cecilia-duterre.fr.
Ou alors sur mon site www.angélique.fr. Ça vous fait trois points de, j'allais dire, de référence pour pouvoir réécouter cette émission qui est super intéressante, en tout cas. C'est pas que je m'auto-censure, ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la passion de ce sujet qui me paraît vraiment essentiel pour comprendre les femmes et pour avancer un peu plus dans cette fraternité que nous pouvons avoir toutes entre nous pour devenir plus forte, mais surtout plus en harmonie. Alors on a de plus en plus des femmes qui sont en train de prendre des responsabilités politiques.
Oui, c'est bien.
Dans différents pays. Alors pensez-vous que les femmes afghanes ont de l'avenir ?
J'aimerais. Donc il commence à y avoir des postes. Effectivement, il y a ce poste de ministre des droits de la femme. Après, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot de ce côté-là en Afghanistan, mais de toute façon, je pense que c'est la marche du monde qui fait que un jour ou l'autre, ça prendra peut-être beaucoup de temps encore. Mais bien sûr, les femmes afghanes et orientales en général vont vers une libération, c'est clair. Après, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps.
Alors, j'aimerais saluer quand même Aïcha. Aïcha, c'était la toute jeune épouse du prophète Muhammad au 7e siècle. Et c'était une femme qui était très érudite, qui était scientifique, qui donnait aussi des directions et des conseils aux hommes. Et elle était particulièrement aimée et respectée. Donc, le Coran ne signifie pas, l'abolition de la féminité. Mais ça peut être aussi un respect profond des valeurs féminines, contrairement à ce qu'on peut penser aussi.
Ça, j'en suis certaine. Mais après, ce n'est pas toujours comme ça que c'est perçu. Et ce n'est pas, en tout cas, dans le cas de ce roman, moi, je parle vraiment d'un intégrisme taliban. Donc évidemment, là, on est très, très loin de ce que vous dites. Hein. En l'occurrence, Zéna, elle fuit ça. Hein. Elle fuit vraiment
Elle fuit les talibans.
Oui. Exactement. Carrément. Et l'enfermement absolu dans lequel on voudrait la maintenir.
Votre mot de la fin, en conclusion, Cécilia, il est pour vous. Nous sommes sur Étincelle, IDFM 98. Que souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment même et aux internautes qui vont ensuite réécouter ce podcast ?
Bah écoutez, moi je dirais lisez. Parce que j'aime profondément les livres. Je suis, avant d'être un auteur, je suis une lectrice absolument boulimique. Je trouve énormément de plaisir dans les lectures, qu'elles soient graves ou plus, je dirais pas légères, mais plus fictionnelles. J'aime les deux et je pense que ça nourrit justement cette intériorité dont on parlait tout à l'heure. Des bonnes lectures nourrissent notre intériorité et nous amènent à la paix.
Donc ça, c'est important. Le mot de la fin, c'est sur la paix. Pensez-vous que ce roman pourrait être un film plus tard ?
J'adorerais. Et il est assez scénarisé déjà. C'est-à-dire que vraiment, à chaque chapitre. Voilà, j'ai fait vraiment attention à... Je n'ai pas du tout pensé à une adaptation, mais le roman est très découpé, déjà comme un film, parce que j'ai voulu qu'il soit haletant, en fait. Là, on a beaucoup parlé de la réflexion, mais c'est d'abord, je pense, un roman, un grand roman, au sens où il répond au code du roman. Ce n'est pas un essai. Toute cette réflexion effectivement existe, elle est en filigrane, mais ça reste un roman, je pense, très accessible et pour un large public.
Alors, lisez-le, n'hésitez pas. C'est vrai que je vous soutiens de manière inconditionnelle parce que j'aime tellement la manière dont vous écrivez. Et j'aimerais juste rajouter ce petit côté humain. C'est que quand moi, je suis presque arrivée à la fin du livre, eh bien, j'ai quand même les yeux qui se sont embués. Et j'étais toute émue et j'étais vraiment dans le personnage. Et pour moi, il avait pris corps. Pour moi, c'était presque réel. Le temps où je l'ai lu, c'était réel. Et je dirais que même quelques heures après, quelques jours après, j'y pense encore.
Bah écoutez, c'est un très beau compliment. Je vous remercie beaucoup.
Eh bien, Cécilia, on vous dit à très bientôt pour un prochain essai.
Avec plaisir.
Peut-être l'année prochaine ou dans 6 mois. En tout cas, vous êtes toujours la bienvenue sur les ondes de Radio Anguin.
Vous écoutez IDFM. Il est 22h.